Merci d'écouter RFI, 9h à Port-au-Prince. Il est 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Cantner.
Nous allons parler de l'actualité d'Haïti et des Amériques durant la prochaine demi-heure. Nous allons revenir sur cette décision des États-Unis de suspendre une livraison de bombes à Israël. Réaction après l'offensive lancée contre la ville de Rafah, qu'Israël dit toujours limitée et temporaire. Nous en reparlerons dans quelques instants. On parlera aussi de la confusion politique qui règne en Haïti autour du fonctionnement du Conseil présidentiel de transition et de la personne qui doit le diriger. Et puis, comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous emmènerez en Martinique où la ville de Saint-Pierre commémore aujourd'hui une date tristement célèbre, la nuée ardente du 8 mai 1902.
Et oui, ce jour-là, la montagne pelée déversait sur Saint-Pierre, la ville martiniquaise, un nuage mortel de cendres brûlantes. Nous en reparlerons tout à l'heure avec notre confrère de la première Martinique, Manuel Larade.
À tout à l'heure, Benoît Ferrand. On sera en ligne avec vous dans 25 minutes environ. Et avant tout cela, on va faire le point sur l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour.
Et on va d'abord prendre la direction de Marseille, Marseille où arrive la flamme olympique aujourd'hui.
Oui, 12 jours après son départ de Grèce, c'est donc le jour J pour le Bélème. Le célèbre 3 mois est arrivé à Marseille avec à son bord la flamme olympique. Avant de débarquer sur Terre ce soir et d'allumer le chaudron, la flamme fait le spectacle actuellement en mer où vous vous trouvez, Baptiste Coulon. Et depuis ce matin, vous nous faites vivre cette grande et belle parade maritime avec un ciel bleu. Et avec vous, Baptiste, le capitaine du Zodiac, dans lequel vous avez pris place.
Exactement, Gilles, je me trouve avec Arnaud, c'est le skipper, celui qui nous permet d'approcher le Bélème au plus près depuis ce matin. Arnaud, vous êtes originaire de Marseille, vous avez grandi dans les quartiers nord Marseille, vous connaissez cette rade par cœur. Est-ce que c'est la première fois que vous la voyez avec autant d'animation?
C'est vraiment ma première et j'espère pas la dernière, c'est vraiment extraordinaire et on n'a jamais vu la baie de Marseille comme ça. Ouais.
Qu'est-ce qui vous impressionne le plus là depuis ce matin?
C'est ce nombre de bateaux, et la météo qui est exceptionnelle, une mer super calme et du soleil, vraiment tout est réuni pour cette occasion mondiale. Quoi.
Il y a de la fierté beaucoup?
Beaucoup de fierté, ouais.
Pourquoi?
En étant skipper et puis d'être marseillais, c'est vraiment une joie d'être là et de participer à cet événement. Ouais.
Fierté, donc c'est le mot qui revient le plus souvent. Merci beaucoup Arnaud, ce mot fierté qui revient le plus souvent depuis 2-3 jours que nous sommes à Marseille maintenant. Et encore plus évidemment aujourd'hui pour l'arrivée de la flamme. Le Bélème fait route maintenant vers le nord. Il était au sud de la rade tout à l'heure. Arrêt vers 17h tout à l'heure pour une pause technique. À 19h, c'est l'entrée officielle dans le Vieux-Port pour l'arrivée de la flamme. En attendant, eh bien, nous on continue à en prendre plein les yeux avec Boris Vichit qui m'accompagne pour les moyens techniques.
Oui, profitez-en. Donc merci à vous trois, Baptiste Coulon, Boris Vichit et Arnaud, le capitaine du Zodiac. J'ajoute que nous sommes précisément à 79 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
En Haïti, le nouveau mode de gouvernement peine à se mettre en place.
Oui, devant l'impossibilité de se mettre d'accord sur un mode de fonctionnement, le Conseil présidentiel de transition vient de passer à une présidence tournante. Armi Lipold, bonjour.
Oui, bonjour Gilles.
Cette solution n'a pas été prévue, Arim, lors de la mise en place de ce conseil, c'était début avril.
Y a-t-il trop de pilotes dans l'avion qui se battent pour prendre les commandes, se demande la presse haïtienne ce matin, en faisant évidemment allusion aux luttes internes au sein du Conseil présidentiel de transition. Une instance qui, depuis sa mise en place, il y a 3 semaines, s'est faite surtout remarquer par ses dissensions. La preuve, cette décision prise hier mardi, vous l'avez dit, contrairement à ce qui était prévu, la présidence du CPT sera assuré de manière tournante pour 3 mois par 4 de ses membres, à commencer par Edka Leblanc-Fils, Fritz-Alphonse Jean, Louis Géragile et Leslie Voltaire prendront eux aussi la tête de la présidence. Un accord dans ce sens doit être signé officiellement ce mardi, d'après le journal Le Nouvelliste. Et en attendant, les préparatifs pour le déploiement de la force multinationale en Haïti se poursuivent. Les États-Unis ont commencé à envoyer du personnel civil et des équipements. Selon une source haïtienne, un premier contingent de 200 policiers kényans devrait arriver le 23 mai à Port-au-Prince, ce qui n'a pas empêché le Conseil présidentiel de transition de réitérer sa demande d'un déploiement rapide de cette mission internationale. Mais Gilles, certains observateurs se demandent si les dissensions n'empêchent pas le CPT de jouer pleinement son rôle d'interlocuteur auprès de la communauté internationale.
Merci pour toutes ces explications. C'était Arim Lipold.
Une audience très suivie au procès pénal de Donald Trump à New York.
L'ancien président aurait falsifié les comptes de ses sociétés pour acheter le silence de l'actrice de film X Stormy Daniels. Donald Trump nie toute relation sexuelle avec elle. Cette supposée relation n'est pas au cœur de l'accusation. Elle s'est pourtant retrouvée au centre des échanges à Washington. Guillaume Nodin.
On peut en parler, mais sans trop entrer dans les détails. C'est la règle que le juge Merchan a tenté de fixer avant le témoignage de Stephanie Clifford, Stormy Daniels à la scène. C'est sans doute pour cela que l'accusation n'a pas jugé utile de demander à l'ancienne reine du porno de décrire l'anatomie intime de Donald Trump, comme elle l'avait fait par le passé à la télévision. En revanche, elle ne s'est pas gênée pour expliquer comment, lors de leur rencontre en 2006, elle s'est retrouvée dans la chambre du futur président à lui mettre une fessée avec un magazine avant un rapport sexuel. Un rapport consenti après lui avoir demandé si cela ne lui posait pas de problème par rapport à sa femme. Non, a répondu selon elle Donald Trump en précisant qu'il faisait chambre à part. Stormy Daniels va même jusqu'à décrire la position du rapport, objection de la défense, qui à force de détails explicites et gênants pour son client, demande l'annulation du procès. Demande rejetée par le juge en concédant que celle qui est à la barre est parfois un peu difficile à contrôler. Le contre-interrogatoire est tendu, les avocats de Donald Trump essaient de mettre en évidence un rapport fluctuant de l'actrice au respect des contrats et à la vérité. Le tout motivé par la vénalité. Réponse de l'intéressé, tout le monde veut gagner plus d'argent, c'est ce qu'on fait aux États-Unis. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
En Russie et en Ukraine, ce 8 mai marque l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui les deux voisins se font la guerre. Le second accuse le premier d'avoir lancé une attaque massive de missiles et de drones contre ses installations énergétiques. Des centrales électriques ont été endommagées dans plusieurs régions, faisant craindre des coupures d'électricité. Moscou ne dément pas mais affirme avoir agi en représailles après des attaques de Kiev contre ses propres infrastructures. La cour d'appel de Hong Kong vient d'interdire le chant Glorite ou Hong Kong. Gloire à Hong Kong. Chant patriotique, il avait été composé pendant le grand mouvement de manifestation de 2019. Il était devenu le cri de ralliement des opposants. Sa popularité était telle qu'il était souvent confondu avec l'hymne national. Correspondance à Hong Kong de Florence de Changy.
On n'entendra donc plus résonner le gloire à Hong Kong, ni dans les centres commerciaux, ni dans les rues de la ville, ni dans les préaux, où il était d'ailleurs déjà interdit par le ministère de l'Éducation, ni dans les stades de sport, où il a souvent été joué par erreur, à la place de la marche des volontaires, l'hymne national chinois, y compris au cours de compétitions internationales. Ces derniers incidents, très humiliants pour le gouvernement, ont sans doute renforcé la détermination des autorités de Hong Kong à faire interdire ce chant, ce qui est chose faite depuis la décision de justice rendue aujourd'hui. Dans le jugement de 61 pages, le juge affirme que le compositeur de ce chant a voulu en faire une arme et c'est ce qu'elle est devenue. Il souligne la puissance de ce morceau. Pourtant, en première instance, en juillet dernier, un tribunal de Hong Kong avait estimé qu'interdire ce morceau était incompatible avec la garantie des libertés, et notamment la liberté d'expression. Mais dans sa déposition d'appel, le gouvernement a indiqué à son tour que même la liberté d'expression avait des limites. France de Changi, Hong Kong, RFI.
Enfin, le président Macron a ravivé ce matin la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris. C'est le 79e anniversaire de l'Armistice de 1945 qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron est ensuite parti pour Marseille pour accueillir une autre flamme olympique, celle-là.
Dont on parle toute la journée sur RFI. Merci Gilles Moreau.
RFI, The World's Voices.
Nous l'évoquions dans le journal et il y a un peu plus d'une heure avec notre invité. Les États-Unis ont pris une décision tout à fait inédite quelques heures après le début d'une offensive israélienne dans la ville surpeuplée de Rafah, dans le sud de Gaza. L'administration Biden a annoncé la suspension d'une livraison de bombes à Israël, des milliers de bombes. Et la presse américaine s'en fait l'écho. Vous l'avez lu pour nous, Abla Jounaïdi.
Oui, dans les pages du Washington Post, un responsable américain sous couvert d'anonymat parle d'un coup de semonce à la hauteur des inquiétudes de la Maison Blanche. La livraison, précise le quotidien, incluait 1800 bombes de 2000 livres et 1700 bombes de 500 livres. Jusqu'ici, Joe Biden laissait entendre à Benjamin Netanyahou qu'il ne fallait pas attaquer Rafah sans un plan visant à minimiser efficacement les pertes civiles. Désormais, son administration en vient à douter qu'un tel plan soit même possible, rapporte le New York Times.
Et la suspension, ça ne veut pas dire annulation à blanc.
Et non, ces bombes ont toujours vocation à être livrées, rappelle le New York Times. Mais des responsables américains ont fait savoir au Wall Street Journal qu'un examen était en cours pour d'autres ventes d'armes dans le cadre de l'offensive à Rafah. Pour le Wall Street Journal, sans même parler de ligne rouge, c'est bien la première tentative publique de la part des États-Unis de conditionner son soutien à Israël.
Et cela intervient au moment où le secrétaire d'État, Anthony Blinken, s'apprête à remettre au Congrès un rapport très attendu.
Au-dessus d'un certain seuil financier, en effet, le département d'État est tenu d'informer le Congrès sur les ventes d'armes à un pays étranger. Ce rapport sur lequel l'administration planche depuis le début de l'année vise à évaluer si Israël a utilisé les armes américaines conformément aux droits américains et internationaux dans sa guerre à Gaza. Ces conclusions pourraient ouvrir la voie à un débat acharné sur la responsabilité américaine dans la guerre, débat qui fait déjà rage dans les universités, souligne le New York Times. Est-ce du fait de son caractère sensible dans le contexte de l'offensive à Rafah ? Politico, en tout cas, appris que le rapport pourrait ne pas être remis ce mercredi finalement, mais la semaine prochaine, aucune confirmation pour l'heure du département d'État.
Abla Jounaïdi, on continue à lire la presse du continent avec vous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, les discussions n'en finissent plus au sein du Conseil présidentiel de transition. On l'évoquait dans le journal il y a quelques instants. Les médias haïtiens reviennent aussi sur cette confusion. Une semaine après avoir choisi un président, la personne d'Edgar Leblanc-Fils, les débats entre ces 9 membres se porteraient désormais sur le choix d'une présidence tournante.
Un accord dans ce sens devrait être signé officiellement ce mercredi d'après le Nouvelliste. De quoi susciter la colère du premier concerné qui ne resterait que 3 mois en place. Edgar Leblanc-Fils crie au scandale et appelle au respect strict de l'accord du 3 avril, relais Radio Métronome. Le National, dans son éditorial, déplore que le Conseil ait sauté sur une mine de discorde depuis sa nomination. Ses membres cherchent à surmonter la crise qu'ils traversent depuis la prise de contrôle par un groupe majoritaire, souligne Haïti Libre. La majorité fixée à 5 sur 7 au lieu de 4 sur 7, c'est un autre point de friction qui reste en négociation, rapporte le Nouvelliste. Cela n'empêche pas le Conseil de réclamer le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. On annonce son arrivée dans environ 2 semaines, mais Alter Press se demande si, en pleine tempête, le Conseil pourra valablement jouer son rôle indispensable d'interlocuteur.
Car le Conseil présidentiel de transition est très attendu sur la sécurité, sur la violence des gangs, qui a notamment pour conséquence le nombre croissant d'enfants déscolarisés. À Port-au-Prince, de nombreuses écoles sont fermées parce qu'elles se trouvent dans des zones trop dangereuses ou parce qu'elles servent d'abri aux déplacés. Et l'éducation est également compromise dans le département de l'Artibonite. Dans la commune de Liancourt, par exemple, 90% de la population a fui la brutalité du principal gang local. Toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées sont fermés. Et bien souvent, les parents déplacés n'ont pas ou plus les moyens de scolariser leurs enfants ailleurs, dans les villes voisines. Les jeunes, eux, observent impuissants leur rêve partir en fumée, comme on peut l'entendre dans ce dossier de Ronel Paul.
À 18 ans, Bensky François devrait passer son bac cette année. Malheureusement, l'année dernière, sa mère célibataire a fui Ponsondéé à la suite d'un assaut du gang Grand Griffe qui avait menacé d'envahir la zone. Obligé de louer un nouvel appartement, sa mère n'a pas pu l'inscrire à l'école.
Ça vraiment triste comme situation.
C'est vraiment triste, mais c'est la situation du pays. J'espère pouvoir y retourner en septembre prochain. Peu importe la façon, il faut que j'y retourne. Ma mère est très triste. Parfois, elle dit que l'enfant n'avait pas demandé à naître et cela m'affecte beaucoup. Mais je garde espoir, même si ça doit être dans une école publique, je retournerai à l'école. Mais le lycée qui est plus proche se trouve à Verrettes et ce sera difficile de trouver l'argent pour le transport.
Si Bensky garde encore le moral et espère pouvoir retourner à l'école l'année prochaine, Jerry Delva, 19 ans, élève en première, lui, ne voit plus d'avenir dans ce pays. Avec des rêves plein la tête, notamment devenir footballeur professionnel, il veut à tout prix quitter ce pays qui l'empêche de poursuivre ses études.
Tout ce que les autorités font pour nous inciter à rester en Haïti, c'est de nous donner des armes. Moi, je ne tomberai jamais dans des choses pareilles. Si j'avais un message à envoyer aux autorités, je leur dirais que c'est de leur faute si le pays se trouve dans cette situation. C'est de leur faute si le rêve de tous les jeunes est de quitter le pays.
Et il n'est pas le seul à tenir l'État responsable de la dégradation de la situation sécuritaire du pays, notamment dans le département Artibonite. Josnem Laurent est le directeur de l'institution Saint-Laurent de Liancourt, fondée depuis 1989. Son école fait partie d'environ 70 établissements scolaires de la région qui ont été contraints de fermer depuis 2023. Comme beaucoup d'autres, il craint que son établissement scolaire ne soit incendié et que toutes ses archives partent en fumée.
Pour le moment, le gang Grand Griffe est en train de piller les maisons, de prendre par exemple les voitures garées dans les parkings. Et il y a certaines maisons qui sont incendiées par méchanceté de profondeur. Et c'est une méchanceté qui n'a pas de nom. La commune est presque déserte.
Une commune d'environ 20 000 habitants vidée de la quasi-totalité de sa population, un défi pour le ministère de l'Éducation nationale. Selon Didier Pierre, directeur adjoint à la direction départementale de l'éducation de l'Artibonite, des dispositions ont été prises pour faciliter la scolarisation des déplacés dans les écoles publiques aux alentours de Liancourt. Des établissements aux classes souvent surchargées.
On avait passé des instructions au niveau des écoles publiques qui se trouvent dans les communes environnantes de Liancourt. On leur a dit de rester pour tous les élèves qui viennent de Liancourt. On est obligé de les accueillir dans les écoles publiques. Dans certaines régions, les écoles publiques ont une capacité d'accueil assez réduite. Les parents ils sont obligés de mettre leurs enfants dans les écoles privées, malheureusement. Ils ont deux problèmes. Ils sont obligés de laisser leur lieu de résidence. Ils sont des déplacés internes et ils sont obligés de payer pour la scolarisation des élèves.
Selon le directeur de l'école Saint-Laurent de Liancourt, de nombreux parents déplacés sont contraints de faire la manche dans les rues de Saint-Marc ou de Verrette pour assurer la survie de leurs enfants.
Il y a ceux qui sont morts à cause de la malnutrition.
Pour l'instant, les habitants du Bas Artibonite espèrent que le conseil présidentiel de transition pourra, comme il l'a promis, rétablir la sécurité publique afin qu'ils puissent rentrer chez eux. Ronel Paul, RFI.
Dossier donc de Ronel Paul à réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio.
RFI, la radio del mundo.
La Colombie est toujours confrontée à des intempéries violentes aux conséquences dramatiques. Avalanches d'eau et de boue, glissements de terrain, inondations majeures, parfois l'eau est montée de plus d'un mètre. Après la période de sécheresse des derniers mois, l'hiver est plus rude que d'habitude. Et si les pluies rassurent concernant les réserves d'eau, Najat Ben Rabah, les destructions qu'elles entraînent inquiètent beaucoup, d'autant que ce n'est que le début. Parce qu'après les conséquences du phénomène El Niño, celui de la Niña vient tout juste de débuter.
Les habitants regardent impuissants leur maison être balayée par un torrent d'eau et de boue, telle une avalanche de terre. Dans la ville de Montebello, dans le sud du département d'Antioquia, l'un des plus touchés par les inondations, des dizaines de familles se sont retrouvées sans toit. La solidarité s'organise pour les aider et les autorités renforcent le système d'alerte. Carlos Andrés Quintero Monsalve, directeur du département de gestion des risques de catastrophe de Medellín.
Nous surveillons de manière constante tous nos systèmes d'alerte. Rappelons aussi à tous que nous devons être attentifs à toutes nos alertes durant cette saison de pluie. Si vous observez tout changement ou problème suspect, appelez le numéro d'urgence 123.
Cualquier anomalía o novedad, reportarla inmediatamente a la línea 123.
Dans le département d'Antioquia, plus de 45 villes sont touchées par les inondations et ou glissements de terrain. Mais tout le pays est concerné, comme la côte caribéenne dans le sud de Bolivar, le département de Santander ou encore à Risaralda, où une famille a été ensevelie après un glissement de terrain. Najat Ben Rabah, Medellín, RFI.
La situation est donc catastrophique en Colombie. Le président en a parlé tard hier soir et il était très attendu car une polémique agite le pays. Une affaire de corruption supposée au sein de l'instance chargée de la gestion des risques. Elle a été révélée par la presse il y a quelques jours et Gustavo Petro est indirectement mis en cause.
La lucha contra la corrupción es una de las banderas.
La lutte contre la corruption est l'une des causes pour lesquelles je me suis le plus battu tout au long de ma vie. Voilà ce qu'a dit le président colombien en demandant une enquête sur tous les contrats passés par cette unité de gestion des risques des catastrophes au cours des 8 dernières années. La presse, Abla Junaidi, qui avait révélé cette affaire, y revient ce matin.
Oui, le scandale concerne des irrégularités présumées dans l'achat de 40 camions-citernes pour près de 12 millions de dollars. Ils devaient servir dans le département de la Guajira, l'un des plus pauvres du pays. Or, rappelle le journal en ligne La CIA Vacía, vendredi dernier, l'ancien dirigeant de l'instance a accusé le gouvernement d'avoir versé plusieurs centaines de milliers de dollars aux actuels présidents de la Chambre des députés et du Sénat afin de faire avancer l'agenda des réformes de Petro. Tout en se dédouanant, le président colombien a hurlé au coup d'État orchestré par ses adversaires politiques, rapporte Radio Caracol.
Et les inondations à Abla Junaidi continuent de semer aussi la désolation au Brésil. On déplore désormais 95 morts dans le sud du pays. Et plus de 130 personnes sont toujours portées disparues. 13h19, en temps universel, reportage maintenant en Argentine. Pays miné par la récession économique, assommé par la politique d'austérité de Javier Milei. La vie est dure, très dure. Alors toutes les occasions de gagner un peu d'argent sont bonnes, comme par exemple ces étranges scans biométriques imaginés par le patron du groupe OpenAI. 1 million de personnes ont déjà accepté de faire scanner leur œil, leur iris précisément, pour le projet WorldCoin en échange de crypto-monnaies. Reportage à Buenos Aires de notre correspondant Théo Conscience.
En ce début d'après-midi, une douzaine de personnes attendent le portable à la main devant ce qui est habituellement une boîte de nuit. Les gens viennent se faire scanner les yeux, explique Nahuel, qui en sort tout juste.
Ils te scannent, ça ne fait pas mal, ce n'est pas désagréable, cela ne fait rien. Et une fois que ton compte est validé, tu reçois 13 000 pesos tous les 13 jours.
Ces 30 000 pesos, environ 30 euros au taux de change officiel, sont en réalité 3 jetons WorldCoin, une crypto-monnaie dont le cours fluctue.
Ensuite, tu passes la crypto-monnaie à une application qui s'appelle Binance, sur laquelle tu peux la convertir en pesos argentins.
À 23 ans, Nahuel comprend parfaitement comment fonctionnent les crypto-monnaies. Pour ce qui est de ce que WorldCoin compte faire avec les données biométriques de son iris, en revanche, il ne l'explique pas et je ne l'ai pas demandé, reconnaît-il.
Je sais que ce n'est pas bien, mais j'avais besoin d'argent, car avec la situation économique du pays, c'est impossible de s'en sortir. Si j'allais mieux économiquement et que j'avais un travail stable, je ne l'aurais jamais fait.
Nahuel est livreur. Il affirme passer 12 heures par jour sur son vélo pour gagner 300 000 pesos par mois, l'équivalent de 300 euros. Alors que la politique d'austérité de Javier Milei a plongé l'économie argentine dans la récession et que l'inflation annuelle dépasse les 288%, beaucoup de gens autour de lui se font scanner l'iris ces derniers mois.
Un salaire minimum ne suffit pas pour payer le loyer et la nourriture. Donc les gens se scannent les yeux pour arriver à la fin du mois avec quelque chose à manger sur la table.
À l'intérieur de la boîte de nuit reconvertie en point de collecte de données biométriques, les appareils photos ne sont pas les bienvenus et les micros encore moins. Le nôtre est dans un sac quand nous entrons dans la salle dépourvue de lumière du jour. Trois sphères couleur argent sombre, tout droit sorties d'un vieux film de science-fiction, sont installées à hauteur d'œil. Ce sont les orbes. Elles contiennent chacune une caméra intégrée pour scanner les iris. Des sous-traitants de WorldCoin sont présents pour accompagner les gens et répondre à leurs questions. L'un d'eux nous explique qu'aucune donnée personnelle, comme le nom ou le prénom, n'est demandée et que les données biométriques récoltées sont entièrement anonymes. L'objectif, poursuit-il, est de créer à terme un réseau financier global sécurisé où chaque utilisateur pourra s'identifier grâce à l'identité unique associée à son iris. Malgré cela, à la sortie, Francisca, 76 ans, n'a pas tout à fait compris ce à quoi elle vient de se livrer.
Je vais demander à quelqu'un s'il s'y connaît mieux en technologie, car moi je n'y comprends rien.
Comme beaucoup d'Argentins, cette retraitée a accepté de scanner son iris car elle avait besoin d'argent. Elle n'en reste pas moins inquiète sur l'utilisation qui pourrait en être faite.
J'espère juste que ce n'est pas comme dans cette série où ils utilisent tes données pour te contrôler tout le temps.
Sans aller jusqu'à un scénario dystopique, la question de la protection des données récoltées par WorldCoin suscite des inquiétudes. En mars, l'Espagne et le Portugal ont suspendu les activités de l'entreprise sur leur territoire le temps de mener l'enquête. Mi-avril, la province de Buenos Aires a également déposé un recours pour exiger des éclaircissements à la firme. Cela ne semble cependant pas inquiéter Lucas, 27 ans, qui vient lui aussi de se faire scanner l'iris.
Je me suis pas mal renseigné avant de le faire. Ce qu'ils font, c'est créer une base de données qui, pour le moment, n'a pas d'utilité ou de valeur. Et ensuite, selon moi et selon beaucoup de gens, l'entreprise vendra cette base de données à des banques ou à des entités qui pourraient en avoir besoin. Rien de plus.
Le manifeste de WorldCoin indique que l'objectif final serait la mise en place d'un revenu universel. Pour plus de transparence, l'entreprise a également rendu son programme accessible en open source. Reste qu'aux États-Unis, pays d'origine de ses créateurs, WorldCoin n'a pas été autorisé à récolter des données biométriques. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
En Argentine, 1 million de personnes sont concernées par ce programme, 5 millions dans le monde qui ont déjà accepté de faire scanner leur iris et de vendre leurs données biométriques au groupe OpenAI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, nous allons en Martinique. Benoît Ferrand, la ville de Saint-Pierre commémore aujourd'hui une date tragiquement célèbre. C'était le 8 mai 1902, la nuée ardente.
Oui, ce jour-là, c'était un jeudi. La montagne Pelée, en éruption depuis le 23 avril, déversait sur Saint-Pierre et ses environs un nuage mortel de cendres brûlantes. Aujourd'hui, 122 ans plus tard, les habitants et la municipalité souhaitent réhabiliter l'un des sites détruits, ce funeste 8 mai, la poudrière de Trouvaillant. Reportage Manuel Larade.
Les résidents du quartier sous les hauteurs de Saint-Pierre souhaitent que cet édifice historique soit mis en valeur.
C'est un super bâtiment, nous avons apprécié, hein, mais nous avons protégé. Il y a l'abandon là, il y a l'abandon.
J'aimerais que ce soit un petit peu nettoyé comme on faisait avant, que quelqu'un vienne là qui voit que c'est un vestige.
Ça peut être quelque chose d'intéressant pour le quartier. Il faudra mettre ce qu'il faut d'ailleurs, ce qui veut dire quelqu'un là pour présenter le site, quelqu'un qui parle déjà le français et l'anglais. Comme ça, quand les touristes vont arriver, ben, ils vont découvrir le site convenablement.
De son côté, la municipalité Pierrotine y pense. Séverine Prouffert est la cinquième adjointe chargée du patrimoine, du tourisme et du développement économique.
Nous avons quelques aménagements à faire, mais on peut très bien le voir sans y rentrer en fait. C'est un avantage, c'est qu'en restant au-dessus, on le voit très très bien. Nous allons le mettre déjà plus en valeur, le nettoyer correctement. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas encore optimal.
La poudrière de Trouvaillant mériterait d'être reconnue davantage.
Une poudrière, vous l'aurez compris, c'était l'endroit où on stockait la poudre et les explosifs. On reste en Martinique où la sécheresse sévit et avec elle, les coupures d'eau de plus en plus fréquentes dans de nombreuses communes. Un problème récurrent dont la solution, s'il y en a une, ne saura être que collective. C'est en tout cas l'opinion d'Aurélie Nella. Elle est maire de Ducos et vice-présidente de la communauté d'agglo Espace Sud. Elle est au micro d'Alain Livory.
Aujourd'hui, c'est quand même insupportable que des écoles soient fermées, que des crèches soient fermées, qu'un lycée, pour parler du Lecta de Quarivaille, ben là aussi, soit impacté et donc que les élèves aient à en pâtir. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est de notre responsabilité collective de pouvoir régler ce problème. Et je crois que la question de l'autorité unique de l'eau, je l'espère, pourrait permettre effectivement de pouvoir mieux appréhender ce problème, que la question du prix unique de l'eau ou du tarif social de l'eau serait aussi bienvenue pour les consommateurs. Mais là, en l'occurrence, j'avoue que la question de la solidarité entre nous se pose, entre des versions qui divergent selon que se place au sud ou au centre. Mais je pense qu'il faut surtout pouvoir penser collectif et se dire que les concitoyens ne peuvent pas être pris en otage de cette situation. En tout cas, tout cela n'est pas de nature à rassurer, là encore, la population sur notre capacité à gérer un certain nombre de compétences.
Aurélie Nella, maire de Ducos en Martinique. Bon après-midi Anne, à demain.
À demain Benoît Ferrand. De la musique avant de se quitter, la voix de Leila Makkala, née à New York de parents haïtiens, puis installée à la Nouvelle-Orléans où elle s'inspire de toutes les influences. Voici un extrait de son nouvel album, Tower.
The veil is lifting and the tower is falling. I hear a voice, I hear it calling. I'm suddenly aware of all I fear. I'm suddenly scared, I'm
Leila Makkala et le titre Tower, extrait de son nouvel album. C'est ainsi que se termine RFI Midi, réalisé aujourd'hui par Stéphane Desfossés. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, 11h, temps universel. Mais ne bougez pas tout de suite sur RFI, de vive voix avec Pascal Paradis.